Joseph Farine, Andata Ritorno, existe maintenant depuis un petit peu plus de 30 ans. C'est une galerie que vous avez fondée, une association, et qui a présenté pour des travaux, notamment d'artistes genevois, à qui vous avez donné une chance, je pense à Carmen Perrin, Gianni Motti et autres. Vous avez toujours tenu cette ligne. Comment arrivez-vous à persévérer dans cette ligne un petit peu hors mode, ici à Genève?
Alors le terme de mode est effectivement fondamental par rapport au parti pris artistique et culturel de ce lieu, parce que dès le départ, j'ai toujours eu une position subjective, personnelle, j'ai toujours eu une position de résistance par rapport au mode, parce que je pense que le monde de l'art, de manière courante et générale, et fonctionne malheureusement dans un consensus. Vous trouvez les mêmes artistes dans les institutions internationales avec les mêmes marchands derrière et les mêmes critiques. Et pour moi, le domaine de l'art devrait être un domaine de liberté la plus grande possible. Et j'y lis, j'y vois, j'y repère, j'y observe un asservissement à une forme de conformisme. Et pour moi, c'est exactement à l'encontre de ce que devrait être l'entité profonde de l'art.
Cette position demande peut-être aussi un style de collectionneur différent.
Alors, on peut en parler des collectionneurs par rapport à ce que vous appelez à propos d'Andata Ritorno une galerie. J'en ai plus. Il n'y en a plus. J'ai eu des collectionneurs dans les 15 premières années, dont le principal, je peux en parler, tout le monde le connaît, c'était André L'Huillier, qui était le pilier de cette galerie. Si on veut parler des collectionneurs, il y a un autre collectionneur que je ne citerai pas qui disait très justement que actuellement la plupart des collectionneurs n'achètent pas avec leurs yeux mais avec leurs oreilles, n'est-ce pas? Il y a un autre collectionneur dont il m'est revenu des propos qui disait je n'achète pas, je n'ai jamais acheté Andata Ritorno parce que c'est un lieu qui fait de la découverte avec des artistes qui ne sont pas sûrs au niveau du marché, qui peuvent le devenir, certains le sont devenus, David Mack, Carmen Perrin, Hervé Grohmann, Gianni Motti, il y en a un certain nombre quand même que j'ai exposé, dont j'ai fait les toutes premières expositions personnelles et qui ont été repris après par des structures commerciales fortes.
J'ai l'impression que par rapport à l'époque dont vous parliez avec André L'Huillier, il y a une 10 ou une quinzaine d'années, la situation a changé et qu'il est moins facile pour un jeune artiste local de se faire connaître sur la scène.
Je verrai les choses différemment. Je pense que les institutions pédagogiques actuelles, et celle de Genève en est une, encouragent et forment aujourd'hui les jeunes artistes du côté du merchandising, de la relation publique, et même que l'identité de leur travail est déjà calquée par rapport aux modes ambiantes qui sont repérables plus que jamais, non seulement par les médias écrits, bien entendu, mais enfin aujourd'hui, tout le monde sait ça, c'est une évidence, les informations circulent à travers le monde entier à une vitesse grand V. Donc, pour un jeune artiste, et ça, je le déplore, je ne dis pas que c'est le cas de tous, loin de là, mais beaucoup fonctionnent aujourd'hui déjà en sachant comment répondre à une demande. Et un phénomène qu'on peut observer, c'est que moi je connais des jeunes artistes, et sur cette place de Genève, qui vivent de leur travail en ayant moins de 30 ans. Et il y a 20 ans, je connaissais aucun artiste de cet âge qui était capable de vivre de son propre travail. Et je pense que il y a tout un système, si on veut y collaborer, qui existe et avec un peu de finesse et d'intelligence et de stratégie, où on peut s'intégrer. Par contre, un artiste qui n'a pas le sens de la relation publique aujourd'hui, je pense, a pratiquement aucune chance d'être reconnu, quelle que soit la qualité effective de son travail.
Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec les médias, dont certains sont maintenant gérés par des algorithmes qui donnent les sujets que les lecteurs veulent lire ? Est-ce que ce serait la même situation au niveau artistique où ces artistes prennent des directions qui vont plaire ?
C'est tout à fait ça. Cet artiste tant galvaudé dans sa position artistique qui est pourtant d'une actualité toujours présente, Marcel Duchamp, pour le citer, écrivait au collectionneur justement Jacques Doucet en 1954 « Je ne vais plus voir les expositions de peinture et de sculpture, elles me font mal au cœur. » Combien d'artistes vrais à 20 ans qui finissent à 40 parfaits hommes d'affaires, les vraies valeurs sont intouchables. Ce mode Duchamp d'une lucidité extrême, je pense qu'il est d'une actualité brûlante aujourd'hui par rapport au conformisme dont je parlais tout à l'heure, des circuits de diffusion. Et quand vous faites la comparaison avec la presse, eh bien sans doute, c'est-à-dire que le vieux mot de Gauguin comme quoi l'art est le reflet d'une société, le miroir d'une société, ce sera toujours le cas, je pense effectivement. Et on vit dans un monde qui est assez, quand même assez pernicieux sous beaucoup d'aspects, où pour reprendre un autre mode du champ, où l'argent a pris la place de Dieu. Et quand l'argent est une croyance, quand on investit dans une œuvre d'art, il y a une croyance. Il y a la croyance d'une plus-value. Il y a la croyance d'un avoir à venir. Donc tout cela est très faussement religieux. Pour un collectionneur, enfin pour une personne ayant une certaine fortune à placer. Il n'y a pas de déshonneur, loin de là, mais il n'y a pas grande noblesse à placer dans l'immobilier. Par contre, vous investissez sur un Damien Hirst ou un Thomas Hirschhorn ou Maurizio Cattelan. En plus, vous avez un alibi culturel. Donc c'est formidable. Vous êtes gagnant à tous les niveaux, au niveau d'une image publique et au niveau d'un avoir financier.
Est-ce que cette conception purement matérielle, je pense au sommet atteint dans les ventes d'œuvres de Kuntz, est-ce que cela aurait plutôt un effet négatif pour l'amateur d'art ?
Alors en plus, effectivement, c'est très nocif, c'est très toxique à ce niveau-là, parce que pour tout un chacun, pas forcément connaisseur en art, et qui a, c'est un stéréotype, n'est-ce pas, le fait de mettre 200 000 francs pour un tableau avec un coup de pinceau numéro 50 dessus, c'est scandaleux, ça veut rien dire, etc. Alors que ça peut être une démarche en soi parfaitement intéressante, mais qui ne peut que rebuter un public qui n'est pas averti. Et je pense que même en étant professionnel et de l'intérieur du milieu artistique, les choses aujourd'hui sont très difficilement repérables dans leur qualité, parce que ça c'est aussi l'héritage du ready-made. Ça peut être quelque chose de parfaitement pertinent derrière un objet ou un assemblage d'objets, ou un travail peut être faussement conceptuel. Je pense qu'il y a une difficulté aujourd'hui à repérer la qualité, pour prendre un terme un peu bateau. Mais.
Sur le plan pratique, comment fonctionne Andata Ritorno ?
Ce lieu ici, si on veut parler de son fonctionnement financier, je peux en parler avec des chiffres à l'appui, les locaux sont mis à disposition par la ville de Genève et la subvention est une subvention minimale, minimaliste, de 23 700 francs par année. Donc effectivement, ce lieu ne pourrait vivre qu'avec certaines ventes qui sont de plus en plus rarissimes, et qui nous met aujourd'hui dans une position quasi-héroïque de survie, et je n'exagère rien. Actuellement, Pour la survie de ce lieu, ce n'est plus du côté des collectionneurs que j'ai un quelconque espoir, c'est du côté de financement institutionnel ou de sponsors privés. Cela vient aussi de toute une réflexion, de tout un cheminement quand même que j'ai fait en 32 ans, en sachant très bien que je n'ai pas une identité de marchand. J'ai fait dans les années 90 certaines foires internationales, dont la plus importante à Art Basel que j'ai fait 6 fois. À l'époque, je croyais pouvoir tenir un chemin professionnel par rapport à cette convention de monstration publique qu'est le système des galeries. Et je me suis rendu compte avec le temps que ma seule véritable identité, c'était celle de découvreur, c'était celle d'explorateur de chemins correspondant à ma sensibilité, à mon goût et à ma trajectoire artistique, esthétique, culturelle, émotionnelle, intellectuelle et poétique, par ailleurs, puisque c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement.
Genève Active.ch